Et donc ce soir, nous allons continuer dans l'Épître aux Hébreux, ce petit périple où nous regardons certains versets qui sont particulièrement intéressants pour nous, puisqu'on n'a pas le temps de tout voir, évidemment, j'ai fait un choix. Et aujourd'hui, nous sommes dans Hébreux chapitre 3. Au chapitre 1, nous avions vu que l'auteur, qui est anonyme, présentait Jésus-Christ comme étant supérieur aux prophètes, parce qu'il est fils de Dieu, supérieur aux anges, parce qu'il est Dieu lui-même. Et en même temps, au chapitre 2, il disait qu'il a été abaissé, il s'est humilié pour venir nous sauver. Celui qui était au-dessus de tout est descendu. Et ce soir, nous allons donc regarder dans le chapitre 3, il nous dit que Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Et vous savez que ce livre s'adresse à des Hébreux, à des Juifs qui ont fait une profession de foi envers Jésus, qui ont dit « Oui, d'accord, je crois que Jésus est le Messie. » Excusez-moi, ça peut arriver, ça ne devrait pas arriver. Quelqu'un qui ne connaît pas les études bibliques. Et donc, que dans le chapitre 3, nous voyons que l'auteur nous dit que Jésus est supérieur à Moïse. Pour des Juifs, c'était une affirmation très forte. Il n'y a que le Messie qui peut être supérieur à Moïse, il n'y a que Dieu lui-même. Et j'ai choisi un verset là qui se trouve au verset 7. « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation, dans le désert. » Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et à l'appliquer. Ici, c'est un appel, et il le dit deux fois, « Aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. » Il y a une caractéristique du cœur de l'homme, c'est qu'il s'endurcit facilement. Quand on parle avec avec les médecins légistes qui voient des cadavres toute la journée, on leur dit, mais comment vous faites pour voir? Vous devez voir des choses horribles, des accidents de voiture, des meurtres. Il dit, au bout d'un moment, c'est un corps, voilà. Pareil pour certains chirurgiens. Nous, on voit une goutte de sang, et puis eux, ils voient du sang, et ils voient les organes dans tous les sens. Le cœur est capable de s'endurcir. Et encore, ça, ce n'est rien, c'est que ce qui est terrible, c'est qu'on peut s'endurcir face à la souffrance des autres. On peut devenir dur, sans compassion, sans sympathie, dur envers son prochain, et ne plus avoir aucune émotion lorsque quelqu'un souffre devant nous. Le grand classique, c'est dans le métro parisien, il y a eu plusieurs cas encore, et même à Lille, il y avait un cas flagrant de cette jeune fille qui avait été molestée, devant témoins, puisque les caméras de surveillance avaient montré qu'il y avait des témoins qui étaient dans les parages et personne n'a bougé alors que la fille était agressée par un homme ivre et violemment agressée. Il y a une sorte de dureté qui s'installe dans le cœur humain. C'est pour ça que Dieu nous appelle ce soir et dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et il rappelle un épisode de la Bible, comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Ça fait appel à un passage qui s'appelle Massa et Meriba. Ceux qui connaissent l'Ancien Testament, ils connaissent peut-être un petit peu. En Exode 17, et on peut juste regarder Exode 17, le verset 7, qui nous explique qu'est-ce que c'est cette révolte. C'est Israël qui marchait dans le désert. Et le verset 7 dit, « Moïse donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, ce qui veut dire tentation et querelle ou provocation et révolte, parce que les enfants d'Israël avaient contesté envers Dieu et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Quand on lit comme ça, on se dit « Bon, quel est vraiment le problème ?» Mais il faut se rappeler que ce peuple-là a été délivré à main forte et à bras étendus de l'esclavage en Égypte. C'était impossible de se délivrer de l'esclavage. Un esclave ne peut pas se délivrer. Les histoires d'esclaves qui se délivrent sont très, très rares. Et là, ils étaient tout un peuple soumis à la puissance égyptienne, et Dieu les a sortis de l'esclavage, mais non seulement ça, mais il a ouvert la mer Rouge, et ils sont passés à travers cette mer miraculeusement. Les Égyptiens n'ont bien sûr pas pu les poursuivre plus longtemps, et dans ce désert, ils ont marché, et chaque fois qu'ils avaient un besoin, Dieu pourvoyait. Ils avaient soif, Dieu donnait de l'eau. Ils avaient faim, Dieu donnait à manger, il y avait la manne tous les jours. Dans le désert, il n'y a rien normalement. Pour avoir de l'eau, il faut creuser vraiment profondément. Et là, il y avait des centaines de milliers de personnes qui avaient assez d'eau et assez de nourriture chaque jour dans un désert. La Bible dit que même leurs vêtements ne s'usaient pas, leurs chaussures ne s'usaient pas, parce qu'il n'y avait pas de quoi faire de nouvelles chaussures, il n'y avait rien. Dieu avait vraiment mis sa main sur ce peuple, il les avait délivrés d'une façon si extraordinaire, et eux, là, ils continuent encore de se révolter contre Dieu, de tenter Dieu, de dire, mais est-ce que tu es vraiment avec nous? Et c'est pour ça que dans Hébreux, il dit, ils se sont endurcis, ils ont endurci leur cœur. Même le croyant peut s'endurcir. On peut devenir blasé. On peut dire, voilà, Jésus est mort pour moi, c'est bien, je suis sauvé, ben voilà. Et puis s'endurcir. C'est-à-dire, chaque jour, oublier un peu ce que le Seigneur a fait et revenir, comme Israël a fait, vers les choses du monde, vers les convoitises, vers les péchés, vers la mondanité, oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. On peut même oublier combien on était malheureux avant de connaître le Seigneur. Les Israélites, ils se rappelaient en Égypte de quoi? Vous vous rappelez? Les oignons, les bons légumes. Il y avait des bons légumes, des oignons, des os, etc. Mais quand vous lisez le récit, c'était pas ça. Il y avait le fouet, il y avait la mort, il y avait les briques à faire dans des... Pourquoi il y avait ce souvenir des légumes? Parce que, encore une fois, notre mémoire peut s'endurcir, on peut avoir une mémoire sélective. Le chrétien, il peut se dire, « Ah, quand j'étais pas chrétien, quand même, je pouvais faire un peu ce qui me plaisait. Je m'amusais bien. Maintenant que je suis chrétien, il faut que je fasse attention. » Et apparemment, ça pourrait... Ah oui, c'est vrai, c'est triste quand même. Amuse-toi, pourquoi tu ne vas pas à nouveau t'amuser? Mais on a oublié que ces péchés qu'on faisait librement, n'est-ce pas? Ils nous mordaient, ils nous prenaient, on en était esclaves. Et souvent, on était malheureux dans ces péchés. Et on avait soif de pureté, on avait soif d'être libre, vraiment. Et puis maintenant qu'on est libre, on peut avoir tendance à s'endurcir. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur Jésus a raconté cette parabole du semeur. Et il dit, un semeur sorti pour semer, et il sème sur quatre terrains différents. Il y avait donc le long du chemin, il y avait dans les rochers, il y avait dans les épines et dans la bonne terre. Il n'y a que la bonne terre qui a produit du fruit. La graine a pu s'épanouir et porter du fruit. Dans les trois autres terrains, il ne s'est rien passé. Cette allégorie est bien sûr une allégorie du cœur humain et de la Bible. La semence, dit la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu sème sa parole dans les cœurs. Et 3 sur 4, là, dans cette parabole, s'endurcissent. Cette semence, elle arrive, elle tombe, mais elle ne porte aucun fruit. Il y a trop de dureté, trop de fermeture à la parole. Un seul terrain qui est le cœur, le bon cœur, justement, le cœur ouvert, le cœur qui a soif, qui a faim, qui veut avancer avec le Seigneur. Et ça doit nous avertir. Est-ce que j'ai ce cœur-là? Ou est-ce que j'ai un cœur de pierre, un cœur d'épine qui pense plus à ses soucis du monde qu'au Seigneur? Est-ce que mon cœur accepte la parole avec joie? Là encore, quand on est nouveau chrétien, on est tellement affamé de la Bible. On la lit dans tous les sens, on veut l'écouter tout le temps. Et puis, avec le temps, on dit, oui, ça, je l'ai déjà lu, oui. Oui, ce passage, je le connais. On va sauter, là. Oh là, il y a une description, on va sauter. Et on commence par lire de moins en moins, et puis par se dire, je connais, je pense que j'ai fait le tour, voilà. Mais est-ce qu'on oublie que la parole de Dieu est infiniment profonde? C'est-à-dire, il y a tellement de niveaux où on peut la comprendre. Un verset qui ne vous dit rien aujourd'hui, demain, dans une autre situation, va vous être très important. C'est vraiment comme une petite sacoche, une besace où on a tout tout ce qu'il faut, tous les outils, mais vous n'avez pas besoin de tous les outils en même temps. Là, vous allez avoir besoin d'un tournevis, là, d'un marteau. Et tous ces versets de la Bible, ces promesses de Dieu, vont être utiles à un moment ou à un autre, mais pas tout en même temps. Mais si on ne la lit pas, si on ne la médite pas, si on ne s'approche pas des Écritures, ben on n'aura pas d'outils. Et le moment où il y a un problème, on va être sans rien. Et cette parole de Dieu, on devrait en avoir faim et soif. Alors, si je n'ai plus faim et soif, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon cœur s'est endurci. Ça va très vite, hein? Ça sèche. Et il faut que le cœur soit continuellement arrosé pour qu'il reste tendre, pour qu'il ne sèche pas. Comment on arrose sa vie, hein, pour qu'elle soit toujours tendre, toujours sensible? Il y a plusieurs réponses, hein. Une, vous pouvez penser à des réponses aussi, hein. Comment arroser sa vie? Mais déjà, par exemple, d'annoncer l'Évangile régulièrement. Il n'y a rien de tel pour vous réveiller, de parler du Seigneur à quelqu'un, d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Ça vous remet dans les rails. Régulièrement confesser ses péchés à Dieu. Prendre le temps et de dire, Seigneur, là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Là, c'était pas bon. Là, je sais que j'ai péché. Et de compter sur le sang de Jésus qui nous purifie, de revenir à la lumière de Christ pour repartir sur les rails, de ne pas laisser s'éterniser cette culpabilité, cette désobéissance, mais de la régler le plus vite possible. Et puis, comment garder cette fraîcheur, cet amour pour le Seigneur? Mais il faut le cultiver. C'est comme dans un couple, on cultive la relation, on cultive l'amour, ou dans l'amitié aussi. Avec Dieu, c'est pareil. On doit garder son cœur près du Seigneur. Et chaque fois que le cœur s'endurcit, hop, est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Est-ce que je vais à l'église parce que j'aime le Seigneur? Ou est-ce que je vais à l'église parce que c'est l'heure d'y aller? Ah, c'est l'heure, il faut que j'y aille. Ou je vais à l'église parce que, ah, ben, il faut que j'apporte ça pour un tel, ou que on s'est donné rendez-vous, il faut que je vienne. Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Pourquoi est-ce que j'ouvre ma Bible? Pourquoi est-ce que je prie? Je prie parce que si je ne prie pas, je vais avoir des problèmes. Est-ce que c'est pour ça que je prie? Ou est-ce que c'est parce que j'aime le Seigneur? Garder cette fraîcheur avec Christ, ce cœur simple. Il y a cet appel du prophète Ézéchiel au chapitre 36, qui est un appel au peuple juif, mais qu'on peut aussi appliquer pour nous. Ézéchiel 36, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Ici, c'est la nouvelle alliance qu'il annonce ici, lorsque le Saint-Esprit est venu baptiser les croyants, la nouvelle naissance. Quand le Saint-Esprit vient, on aime le Seigneur, parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous, hein, qui nous pousse. On n'est plus sous la loi, ça vient de l'intérieur, hein, c'est le Saint-Esprit, en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Mais surtout, il nous donne ce cœur de chair, ce cœur tendre, ce cœur qui est sensible au péché, qui est sensible à la détresse des autres, ce cœur qui aime comme Dieu aime. Le Seigneur Jésus avait ce cœur de chair. Hein. Combien il était sensible à la détresse. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un souffrir, il allait s'en occuper. Jésus a pleuré plusieurs fois. Il a pleuré à quel moment? Sur Lazare, c'était son ami qui était mort, et une autre fois sur Jérusalem. Hein, lorsqu'il a regardé Jérusalem de loin, il a dit, hein, tu n'as pas voulu te repentir quelque part, hein, mais il a pleuré. Et aussi, il est dit qu'il était ému de compassion pour la foule. Il voyait cette foule qui n'avait pas de berger, qui avait faim et soif spirituellement. Est-ce que nous avons ce cœur de chair? Au chapitre 4, nous découvrons que le repos en Jésus-Christ est supérieur au sabbat. Chez les Juifs, le sabbat, c'est quelque chose de très, très, très important. Et alors que dans la Bible, ça a une relative importance, dans le judaïsme rabbinique, c'est devenu central. C'est-à-dire, tout tourne autour du sabbat, et si vous ne respectez pas le sabbat sous toutes ses formes, vous êtes un mauvais croyant. Jésus a été confronté à ce problème à plusieurs reprises quand il a fait des guérisons le jour du sabbat. Parce qu'on disait, c'est une œuvre, on n'a pas le droit de guérir, il ne faut rien faire le jour du sabbat. Et Jésus les a regardés, il a dit, mais quand vous avez une brebis qui tombe dans un puits, est-ce que vous la laissez mourir le jour du sabbat? Ah ben non, on va la sauver, ben alors c'est pareil, moi je m'occupe des brebis d'Israël. Et il y avait vraiment cette obsession, même une fois les disciples, hein, pendant qu'ils marchaient, ont cueilli des glanés, hein, comme ça, des épis, parce qu'ils avaient faim. Et on leur dit, oh, pendant le sabbat, vous glanez des épis, mais c'est un travail, vous êtes des mauvais croyants. Voilà, c'était une obsession. Mais il y a un vrai sabbat, bien sûr, qui est important. Et le sabbat en Christ est supérieur. Et le verset que j'aimerais qu'on regarde au chapitre 4 se trouve au verset 9 à 11. Hébreux 4, 9 à 11. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ce qu'on ne voit pas immédiatement dans le texte en français apparaît dans le texte grec, c'est que littéralement, il dit « il y a donc un sabbat réservé ». C'est pas, il n'y a pas le mot « repos », il y a le mot « sabbat » réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le « repos », là c'est un autre mot. Donc il y a deux fois « repos » en français, mais c'est deux mots différents, parce que là, il y a deux formes de repos avec Dieu. Le premier repos, le sabbat, le mot sabbat, hein, c'est le repos après avoir fait un effort. Souvenez-vous, le premier sabbat, c'est lorsque Dieu a créé le monde. Il a créé le monde en combien de jours? 6 jours. Et le septième jour, qu'a-t-il fait? Il s'est reposé. Est-ce que Dieu était fatigué? Non. Mais c'était une façon de contempler son œuvre et de voir la beauté de cette œuvre, puisque souvent dans la Genèse 1, il dit hein, « Et l'Éternel vit que cela était bon, beau. » Et c'est curieux, c'est Dieu qui a vu. Dieu crée et il dit « Ah, c'est beau, c'est bon. » Et nous, nous sommes appelés à rentrer dans ce repos de Dieu. C'est ça qu'il dit. Hein. Il y a une chose très intéressante déjà, rien qu'avec le corps humain. Notre corps est régi par des cycles, des rythmes qu'on appelle les rythmes circadiens. Ces rythmes sont liés à la lumière et au soleil, et lorsque ces rythmes sont dérangés, on a des problèmes de sommeil et de tout d'ailleurs. C'est ce qui arrive quand on a le fameux jet lag, le décalage horaire, n'est-ce pas ? C'est que votre corps ne sait plus si c'est la nuit, le matin, donc il est déréglé, il vous donne envie de dormir à l'heure habituelle. Et donc les rythmes circadiens sont très très importants pour la santé. Il y a un spécialiste mondial, qui est un biologiste roumain, qui s'appelle Franz Halberg. Il est roumain, croyez-le ou non, avec ce nom. Et c'est un spécialiste des rythmes circadiens. Et il a découvert que chez l'homme, mais aussi chez l'animal et chez les plantes, il existe un rythme de 7 jours, ce qui est très important pour la vie, tout simplement la vie, pour vivre, pour avoir une vie normale, 7 jours. Et ça correspond exactement au sabbat. Hein. Lors de la Révolution française, les révolutionnaires ont voulu éliminer toute trace de religion. Ils ont éliminé notamment la semaine de 7 jours. Ils ont dit, il n'est pas question que le dimanche, les gens aillent prier, interdit de prier, d'aller à l'église le dimanche. Hein. C'était vraiment totalitaire, hein, la Révolution française. On est passé du totalitarisme catholique au totalitarisme révolutionnaire. Ils ont dit, on va tout changer. C'est la convention qui a voté ça en 1793. On va faire la semaine de 10 jours. Désormais, il y aura 10 jours, donc 9 jours de travail et un jour de repos. Eh bien, au bout de quelques mois, ils ont dû abandonner leur belle loi. Personne n'arrivait à tenir ce rythme, ni les animaux, ni les hommes. Tout le monde était épuisé. S'il vous plaît, ramenez-nous 7 jours. Et il y a quelque chose que Dieu a créé en nous. C'est en nous, c'est inné, ce cycle de 7 jours. Et c'est important dans la vie, déjà, de tous les jours, d'avoir un repos. Quelque part, de se réunir le dimanche, ça fait partie de ce repos de Dieu. De prendre un jour dans la semaine où C'est pas qu'on ne travaille pas, hein, c'est que on va s'approcher de Dieu et on va se reposer de nos efforts, de notre travail, comme Dieu l'a fait, pour louer le Seigneur, pour se retourner et dire merci Seigneur pour cette semaine. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour la vie. De louer le Seigneur. C'est ça le but du dimanche, hein? De s'arrêter de louer le Seigneur. Si il fallait arrêter de travailler totalement, les pasteurs ne devraient pas exercer leur travail le dimanche, parce que c'est là qu'on travaille le plus, hein. Donc, ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de s'arrêter, de contempler la bénédiction de Dieu, le salut de Dieu, de louer le Seigneur, comme Dieu l'a fait à la création. Et il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas dire, ah, mais moi j'ai autre chose à faire, j'ai des devoirs à faire, ou j'ai un travail à faire, ou j'ai des rendez-vous à faire, ou j'ai la famille à voir. Il faut mettre un jour à part. Si on ne le met pas à part, il ne va pas venir tout seul, hein. Il faut dire, ce jour-là, je le consacre au Seigneur. On ne veut pas faire comme le judaïsme rabbinique, où ça devient une obsession. Hein, si tu fais 3 pas de trop, ça y est, tu es dans le péché. Ou si tu ne peux plus appuyer sur un bouton électrique. Ce n'est pas du tout ça, le sabbat. Le sabbat, c'est le repos de Dieu avec Dieu. C'est d'entrer dans ce repos. Mais ce repos de Dieu, ce n'est pas seulement le repos physique, bien sûr. C'est un repos spirituel. C'est pour ça qu'il y a un deuxième mot. Et le deuxième mot, hein, dans le verset suivant, verset 10, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Il y a aussi le repos dans le sens repos après le danger. En hébreu, le mot, c'est Noé. Vous saviez que Noé, ça veut dire repos? Voilà. Shabbat, ça veut dire repos. Enfin, ça veut dire, oui, une sorte de repos. Et Noé, ça veut dire repos. Et le repos de Noé, c'est après le déluge, hein. Lorsque l'arche est retombée, que le jugement est passé, terrible, ils ont pu jouir à nouveau d'un repos dans la présence de Dieu. Et c'est un petit peu pareil. Christ a passé le déluge pour nous, hein. Il a passé la mort. Il a été crucifié. Il a vécu le jugement de Dieu sur nos péchés. Et nous, on peut entrer dans le repos de Christ. Parce que Christ est ressuscité le troisième jour et il est assis à la droite de Dieu. Il a vaincu la mort et le péché, le jugement de Dieu. Et donc nous, on peut se reposer. On n'a pas d'œuvre à faire pour être sauvé. Il dit, hein, il s'est reposé de ses œuvres. On n'a pas à faire d'efforts pour être sauvé. Dans toutes les religions humaines, il faut faire beaucoup d'efforts pour plaire à Dieu. Faire des pèlerinages, il faut faire des sacrifices, des offrandes. Mais tout ça en espérant plaire à Dieu. Et ce sont des efforts et les gens se sacrifient vraiment. Certains vont à l'extrême, hein, ils se fouettent, ils se flagellent, etc. Mais les gens sont prêts à tout pour essayer de plaire à Dieu, à la divinité. Mais dans la Bible, il nous est dit que Christ a tout payé sur la croix, que son sacrifice est suffisant. Donc pour plaire à Dieu, je n'ai qu'une seule chose à faire. La Bible dit dans Hébreux, il est sans. Quoi? Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est par la foi en Jésus-Christ que je peux être accepté par Dieu. C'est Christ qui a fait l'œuvre, qui a fait le travail, qui a fait l'effort en mourant pour moi. Moi, je n'ai qu'à entrer dans son travail, si on peut dire, et me reposer sur lui. La foi, c'est une façon de se reposer. Hein, le pasteur Somerville aimait bien comparer la foi au fait de s'asseoir sur une chaise. Quand vous asseyez sur la chaise, est-ce que vous restez les jambes, les muscles tendus au cas où la chaise va lâcher? Non, parce qu'on ne tient pas longtemps comme ça, hein, c'est très fatigant pour les muscles. Non, qu'est-ce qu'on fait? On se détend, on se repose, parce qu'on sait que la chaise va nous soutenir. Et la foi a ce côté repos. Je me repose sur l'œuvre de Christ. Christ est mort pour moi, donc le jour où il y aura le jugement, je vais dire au Seigneur, Seigneur, Jésus est mort pour moi. Je peux me reposer sur cette promesse que je suis sauvé. Je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à m'inquiéter, à m'angoisser, à me dire, est-ce que j'ai fait assez d'œuvres pour être sauvé? Est-ce qu'il faut que j'aille à l'église 3 fois par semaine pour être sauvé? Est-ce qu'il faut que je lise la Bible une fois par an pour être sauvé? Est-ce qu'il faut que je fasse tant d'années, d'heures de prière et de jeûne? Non! La foi qui se repose sur Christ. Et après, quand on a Christ, on agit, on fait des œuvres, hein, ça on l'a vu, hein, ces derniers jours. Après, le chrétien n'est pas quelqu'un qui dort toute la journée en disant « Je suis sauvé, donc j'attends la mort, hein. » dans mon lit. Le chrétien est quelqu'un de très actif, mais il n'est pas actif pour plaire à Dieu. Il est actif parce que Dieu l'a sauvé, parce qu'il a l'amour de Dieu qui coule. Il a des fleuves d'eau vive. Mais il dit, entrez dans ce repos. Et ce repos, c'est le repos donc de ne pas faire d'œuvre pour être sauvé, mais de croire, de la foi. C'est aussi la paix de Dieu. Ce repos de pouvoir dire, je suis sauvé, le Seigneur m'aime, rien ne pourra me séparer de son amour. Regardez juste Romains 5, hein, qui est ce magnifique passage qui résume un petit peu cette pensée. Romains 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés, pardonnés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, il répète, hein, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Le chrétien a une joie, il a une paix de Dieu parce qu'il est sauvé, pardonné. Il n'est plus dans cette peur de la colère, il sait qu'il échappera à la colère et il a aussi cette paix malgré le stress, malgré tout ce qui peut arriver dans la vie, hein. On est dans un monde quand même extrêmement stressant, surtout dans les grandes villes, parce que là, il y a une concentration de gens qui fait que c'est plus dur à vivre. Quand vous êtes tout seul à la campagne, vous avez d'autres problèmes. Hein. Vous avez la solitude, mais vous n'avez pas le stress, hein. C'est pas pareil. Il y a le stress et puis aussi ce monde qui nous pousse à consommer, regarder, convoiter, se battre tout le temps, qui est dans ce mouvement mais malsain en permanence. Et le chrétien peut être emporté dans cette machine à laver là, hein, et secoué. Et on a besoin de revenir à la paix de Dieu. Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, je ne veux pas affronter la journée avec le stress en me disant « Ah, qu'est-ce qui va se passer encore ?» Non, je veux commencer avec Dieu ma journée. Seigneur, je compte sur toi. Tu vas aplanir mon chemin, tu vas répondre aux prières, tu vas voilà, vivre dans la paix de Dieu dans un monde extrêmement agité. C'est possible. Et je pense toujours à la voiture parce que c'est vraiment une épreuve, hein, permanente, hein, de conduire à Paris. Si on est tendu, donc moi, quand je suis pressé, par exemple, je vis très mal la conduite. Voilà. Quand je suis pressé, j'ai l'impression que tout le monde s'est donné le mot pour conduire comme des tortues. Je pense qu'il y a un complot. Et les gens, chaque fois devant moi, j'ai la voiture la plus lente de Paris qui est là, qui démarre jamais au feu vert, il ne met pas son clignotant. Bon, et ça me stresse. Voilà. Par contre, quand je ne suis pas pressé, ben, ça se passe bien. Que les gens aillent vite ou pas vite, ça m'est égal. Et je pense à autre chose. Bon, je peux prier, je peux en penser au Seigneur, etc., tout en étant concentré sur la conduite. Mais... Et donc, c'est nous qui décidons aussi de notre attitude. Est-ce que je veux vivre ma vie tout le temps stressée, tout le temps angoissée, tout le temps dans l'amertume ou dans la violence, ou je ne sais pas, ou est-ce que je veux vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie du Seigneur? C'est un choix. C'est pour ça qu'il dit, hein, « Soyez toujours joyeux », c'est un ordre. Oui, Seigneur, d'accord, je veux obéir, me réjouir, parce qu'il y a tellement de sujets aussi de se réjouir. Entrer dans le repos de Dieu, c'est la chose la plus belle qui nous soit donnée par le Seigneur. Et c'est ce qu'il nous dit ici, le repos en Christ est supérieur au sabbat. Ce n'est pas juste qu'on va prier, on va dans une église ou qu'on va arrêter de travailler. C'est qu'on entre dans la joie du repos, dans la bénédiction de ce repos, qui est le repos d'être sauvé et le repos d'avoir Dieu dans sa vie. Parce que franchement, quand on a Dieu dans sa vie, ça change tout. Ça donne un sens, ça donne une paix que beaucoup aimeraient avoir. Et c'est à nous aussi d'être des témoins, de dire aux autres, tu sais, il y a cette paix, elle est offerte à tous. Parce qu'il y a des personnes qui regardent les chrétiens et disent, mais comment tu fais pour ne pas être complètement paniqué ou... Et là, il faut avoir le courage de dire, mais c'est la paix de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas moi, hein, c'est la paix de Dieu. Et cette paix, elle est donnée à tous. À tous ceux qui veulent l'apprendre. Ce repos, il faut entrer dedans, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Que le Seigneur nous aide à vivre dans ces choses d'avoir un cœur qui ne s'endurcit pas et de vivre dans la paix du Seigneur. On va terminer par